Jean, chapitre 15. Verset 5. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le prophète Osée, au chapitre 14, à la fin, page 630. Osée chapitre 14, à la fin du verset 8, de moi provient ton fruit. De moi provient ton fruit. Concernant ce dernier verset, nous voyons que la source de toute bénédiction, la source de tout ce que nous pouvons produire comme fruit provient du cœur de Dieu. C'est-à-dire que rien ne vient de l'homme, de notre propre fond, tout provient de Dieu. Et il faut insister sur cette expression, Osée 14 à la fin du verset 8, « De moi provient ton fruit ». Un croyant, un chrétien, un disciple, eh bien, il peut produire des fruits pour Dieu, mais ces fruits viennent de Dieu lui-même. De notre propre fond, nous ne pouvons porter du fruit pour Dieu. Jean 15, nous savons tous que c'est un chapitre qui est un des chapitres qui nous parle des dernières paroles du Seigneur Jésus sur cette terre. Et ce sont les paroles du Seigneur, et donc ces paroles doivent particulièrement toucher nos cœurs et nos consciences, parce que elles sont le moyen souvent, sans doute pas assez souvent, le moyen qui est utilisé par Dieu et par l'Esprit Saint pour nous réveiller. Et nous avons lu et relu cette expression « Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire ». Le Seigneur, il ne dit pas séparé de moi, vous pouvez faire quelque chose de bon, peut-être peu. Le Seigneur, il dit, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, si nous examinons nos voies, est-ce que nous faisons des choses avec le Seigneur, dans sa dépendance, dans sa communion, ou bien est-ce que nous prenons des décisions de notre propre fond, des impulsions qui viendraient de notre nature, de notre nature pécheresse. Et il faut bien nous souvenir que séparés de Christ, séparés de lui, nous ne pouvons rien faire, rien de bon et rien d'utile. Le chapitre 15, au début, le Seigneur nous dit, nous ne l'avons pas lu, « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. » Et le Seigneur s'adresse à ses disciples. Et il explique à ses disciples qu'il y a des conditions pour apporter un fruit abondant à Dieu. Et dans les quelques versets que nous avons lus, nous pourrons retrouver quelques-unes de ces conditions pour porter du fruit pour Dieu. Le Seigneur, il s'adresse à ses disciples. C'est-à-dire que on peut être un chrétien sans être un disciple. Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? Eh bien, un disciple, c'est un chrétien qui est auprès de son maître, qui l'enseigne, et dont il écoute les paroles, toutes ses instructions, pour les mettre en pratique. Et nous devons bien comprendre que de notre propre sagesse, de notre propre fond, eh bien, de nos propres pensées, eh bien, rien ne peut venir de bon. Mais que nous devons connaître les instructions que le Seigneur Jésus nous donne dans sa parole, connaître les paroles du Seigneur pour pouvoir être utile entre ses mains, pour pouvoir porter du fruit et un fruit abondant. Pourquoi le Seigneur dit « Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le cultivateur » ? Cela veut dire que Israël a été mis de côté. Et si nous lisons en particulier dans Ésaïe au chapitre 5, nous voyons que Ésaïe est comparé à une vigne, mais qui n'a pas porté de fruits. Ésaïe chapitre 5, au premier verset, « Je chanterai à mon bien-aimé un cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile, et il la fossoya et en ôta les pierres et la planta de ceps exquis. Et il bâtit une tour au milieu d'elle et y tailla aussi un pressoir. Et il s'attendait à ce qu'elle produirait de bons raisins et elle produisit des raisins sauvages. » Verset 4 au milieu, « Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit des raisins sauvages ?» Dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi dans le psaume 80, on peut lire aussi deux versets où Israël est comparé à une vigne. « versets 8 et 9 du psaume 80, tu as transporté d'Égypte un cep et tu as chassé les nations et tu l'as planté. Tu as préparé une place devant lui et il a poussé des racines et a rempli le pays. Donc dans la parole de Dieu, nous voyons que Israël, le peuple d'Israël, a été comparé dans l'Ancien Testament à une vigne, à un cep planté dans le pays. Et ce cep devait produire de bons raisins. Et au chapitre 15 de l'Évangile de Jean, nous voyons que le peuple d'Israël qui a rejeté Christ et la mise à mort, eh bien, est mis de côté. Et donc, le vrai cep, maintenant, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le cultivateur. Alors là, la première condition pour porter du fruit, nous le voyons à ce verset 5, « Moi je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. » Un enfant, comme un frère âgé, à tous les âges de la vie, nous pouvons porter du fruit pour Dieu. Et nous voyons que c'est le Père qui est le cultivateur, et le fruit qui est porté par les sarments, c'est pour Dieu le Père. Et donc vous, les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Demeurez en lui. Nous savons que c'est une expression qui nous parle de la relation intime qu'un chrétien, qu'un disciple a avec son Seigneur. Une relation intime de tous les jours. Et le Seigneur précise bien que cette relation va dans la durée. Celui qui demeure en moi, c'est pas un moment bref, mais si nous désirons porter du fruit pour Dieu, comme nous le demande le Seigneur, eh bien, il faut être attaché au cep, mais demeurer en lui, que cette communion soit quelque chose de continuel. Notre exemple de ce qu'est la communion, c'est l'exemple du disciple Jean qui avait sa tête penchée sur la poitrine du Seigneur, près de son cœur. Et nous voyons que ce n'est que dans la proximité du Seigneur que nous pouvons écouter comme des disciples sa parole. Si nous nous tenons éloignés, eh bien ces paroles, nous ne les entendrons pas. Moi, je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi. Voilà la question. Est-ce que j'ai une relation intime, bénie, avec le Seigneur, continuelle? Est-ce que, à la fois par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, j'ai cette relation? C'est la première condition pour porter du fruit. S'il n'y a pas cette relation, eh bien nous ne pouvons pas porter du fruit. Et un fruit abondant, il faut que cette relation soit habituelle. Bien sûr, avec la confiance. La deuxième condition, nous la voyons au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. La deuxième condition pour porter du fruit, c'est avoir les paroles de Christ, du Seigneur Jésus, demeurant dans le disciple. Pourquoi ? Parce que ces paroles, si nous les connaissons, eh bien, elles vont nous diriger et aussi nous corriger. Et un disciple de Christ, si nous avons ce désir d'être des disciples de Christ, eh bien, les paroles du Seigneur vont nous diriger et en même temps vont nous corriger. C'est-à-dire que les paroles du Seigneur, il ne faut pas en faire une lecture superficielle, mais recevoir ces paroles dans le cœur, dans la conscience, pour qu'elles produisent ce pourquoi il nous les a données. Donc la deuxième condition pour que nous portions beaucoup de fruits, c'est que nous connaissions la parole de Dieu et tout particulièrement les paroles du Seigneur. Et à ce moment-là, nous pourrons porter du fruit pour Dieu. La troisième condition, nous la voyons, est que mes paroles demeurent en vous. Vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. La troisième condition, c'est se tourner vers Dieu par la prière pour avoir les ressources divines et être dépendant de sa volonté. Donc, on peut redire que pour porter du fruit, je dois avoir une vie de communion avec le Seigneur, une vie habituelle avec lui, par la prière, par la lecture de la parole de Dieu. La deuxième condition, c'est que ces paroles demeurent en moi. Donc nous voyons que les paroles qui demeurent en nous, ce n'est pas un exercice intellectuel. Hein, c'est les paroles que je reçois dans mon cœur, que je reçois dans ma conscience, et elles dirigent ma vie, elles me corrigent, parce que j'ai besoin, sans aucun doute, d'être corrigé. La troisième condition, c'est se tourner vers Dieu par la prière. Vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. La prière est nécessaire pour porter du fruit pour Dieu et pour être dans les mains du Seigneur, pour comprendre quelle est sa volonté. Et nous voyons que l'expression « vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait ». Il ne nous est pas dit que la réponse à cette prière sera immédiate. Elle sera peut-être tardive, mais la certitude que si nous demandons avec les conditions préalables que nous avons évoquées, eh bien, il nous sera fait. Vous demanderez ce que vous voudrez et il sera fait. Et en ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Donc là, la question, est-ce que je veux rester un chrétien ? Mais est-ce que je veux être plus que cela, être ce disciple qui demeure en Christ, qui reçoit ses paroles, qui demeurent en lui, qui prie, qui s'attend, un disciple qui s'attend à lui pour la réponse à ses prières, pour qu'il nous dirige dans ce que nous avons à faire et pour glorifier Dieu. Un frère disait que on peut être des chrétiens comme de magnifiques arbres ornementaux, mais qui ne portent pas de fruits. Et ce chrétien, il disait que nous devrions être plutôt des arbres fruitiers, c'est-à-dire qui puisent les ressources dans le cep duquel nous recevons la vie. Bien sûr, les sarments, c'est le cep qui donne la vie, la sève qui monte dans les sarments. Eh bien, c'est la vie qui nous est communiquée, la vie de Christ nous est communiquée. Et ces sarments ont besoin aussi d'être nettoyés, et c'est le travail du cultivateur de nettoyer les sarments, parce que nous avons certainement besoin de quitter certaines choses ou d'abandonner certaines choses qui nous empêchent de porter du fruit. Alors, qu'est-ce que le fruit ? Est-ce que le fruit, ce sont des œuvres ? Dans l'Épître aux Colossiens, au premier chapitre et au verset 10, nous voyons que ce ne sont pas les œuvres le fruit, mais que le fruit est dans les œuvres. Et qu'est-ce que le fruit pour le chrétien ? Porter du fruit, un fruit abondant, eh bien, c'est ressembler à Christ. Connaissons dans l'Épître aux Galates l'énumération de ce fruit de l'esprit. Les trois premiers fruits sont des fruits intérieurs et les autres fruits sont des fruits visibles. Et on a dit que le fruit de l'esprit que nous trouvons dans l'Épître aux Galates correspond aux perfections divines, aux perfections du Seigneur Jésus, de toutes ses gloires morales en un homme. Porter du fruit, c'est refléter Christ, c'est refléter ses gloires morales, c'est refléter ses perfections morales. Un disciple qui s'approche de son maître, eh bien, il veut lui ressembler. Eh bien, il faut que nous comprenions que c'est dans la contemplation de notre maître que nous pouvons porter du fruit à la gloire de Dieu. Dieu désire que nous ressemblions à son Fils, que nous soyons conformes à son Fils. On peut peut-être lire cette expression dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Verset 29, « Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » Ce sera bien sûr dans la gloire du ciel que nous serons conformes, conformes à l'image de son Fils. Mais déjà sur la terre, notre désir doit être de refléter Christ, de refléter dans notre vie toutes ses gloires morales. Et si nous lisons tout ce qui est dit dans le Nouveau Testament à propos du fruit, il en est parlé dans plusieurs épîtres, si nous lisons attentivement, nous pouvons voir que chaque fois, ce sont des perfections que Christ a portées durant toute sa vie. Et Dieu veut, au fond, que le divin cultivateur veut que nous ressemblions à son Fils dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Et que le Seigneur veuille bénir sa parole, que nous la recevions dans notre cœur et dans notre conscience, que nous puissions avoir cette attitude du disciple, qui possède dans son cœur ces paroles, qui les médite, qui les mette en pratique, que nous ressemblions davantage au Seigneur Jésus dans toutes ces perfections, que cette contemplation nous rapproche de lui afin que nous portions du fruit, mais ce fruit, il vient de Dieu lui-même. Aucune gloire pour nous, notre seule Notre seul désir, c'est de ressembler à Christ, afin que nous glorifions le Seigneur dans notre marche.
Porter du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits. On peut lire plus loin en Jean 15. On peut lire les versets 16 et verset 17. Voilà, porter du fruit. C'est Dieu, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis, que nous allions et que nous portions du fruit. Et seulement, pas porter du fruit, mais que notre fruit demeure. Ce n'est pas par moment où on va. Le fruit demeure. Il faut que ce soit vu tous les jours, à chaque instant du jour, que notre fruit demeure. Et en marchant ainsi dans le chemin du Seigneur, lui, il a porté du fruit pour son Père, beaucoup de fruits pour son Père. Et il est notre modèle. Nous devons lui ressembler dans notre vie quotidienne et ainsi de marcher, aller, venir, porter du fruit et que ce fruit demeure. Et le Seigneur alors est glorifié si nous marchons ici-bas portant du fruit pour lui. C'est pour lui, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui que nous portons du fruit. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a établis, c'est lui qui est digne de ce que nous portions du fruit pour lui et qu'il soit honoré par notre vie, par notre marche, en portant ce fruit, beaucoup de fruits, plus de fruits.
Cantique 182, strophes 3 et 4.